podcast.com. Essaye ça.
L'Express du 20 avril. Pas de gros dossier, mais un paquet de petites nouvelles intéressantes. Et puis même une couple de qui sont assez amusantes. Salut Martin.
Hey. Oh, attends-moi deux secondes. Bon, voilà. Nous voici atteints un petit peu. Voilà, là, on va t'entendre. Refais donc ton open, voir ça a l'air.
Bon, ben, salut Martin. Je disais qu'il y avait un paquet de petites nouvelles aujourd'hui. Pas des grosses nouvelles, mais des nouvelles quand même intéressantes. Puis une couple qui sont amusantes, là, on va dire de même. Ouais, puis une couple de fâchantes aussi. Mais je pense que aussi on va peut-être soit serrer les poings, soit rire fort quand tu vas nous faire les tweets de la semaine.
Je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Moi, j'ai déjà vécu un peu, fait que ça va être peut-être un peu moins gossant, là.
Ah, mais, j'ai vu une couple là, de qui sont quelqu'un là, tu sais. je pense qu'on va s'amuser un petit peu pareil. Mettons qu'on passe les dossiers plates, là. En tout cas, plate, oui, puis il y a aussi tout un petit angle, tout un moyen de trouver un petit angle le fun. Les élus caquistes ont dû aller faire des excuses publiques, puis aller pleurer en public parce qu'ils ont pas pu, ils n'ont pas respecté une promesse électorale. Bernard Drainville était en larmes quand il exprimait ses remords et ses regrets. Ça se peut qu'il trouve ça tough, là, j'ai l'impression, là, mais... c'est pas quelque chose de si inhabituel que ça, une promesse pas remplie, là. Puis je...
Ben, écoute, Éric Kerr avait même affirmé que lui, si ça se passait pas, il démissionnait.
Eh oui, mais il reste une autre promesse qui est pas respectée. Ben ouais. Tu sais, bon, je pense que la décision est pas mauvaise, là, de privilégier le transport en commun dans une vision d'avenir. Mais je comprends, par exemple, ceux qui sont fâchés. Parce qu'ils se sont fait promettre ça. Ils ont élu la CAQ. Il y en a qui ont voté la CAQ juste pour ça, là, tu sais, parce qu'ils voulaient voir le problème de trafic à Québec réglé. Puis je sais que quand tu vis pas à Québec, tu le vis pas ce trafic-là. Quand tu vis à Montréal, tu dis « Bah, votre trafic, ouais, c'est rien, c'est la moitié de ce qu'on a. » Plus ou moins vrai. T'sais, c'était vrai il y a 10-15 ans, là, mais il y a du trafic à Québec. Il a diminué dans les dernières années. Puis aussi, on explique que... des travaux empiraient ce phénomène-là. Le trafic était malade, selon M. Drainville. Mais bon, on a décidé d'investir dans le transport en commun. C'est vrai que c'est comme juste à moitié régler le problème, parce que c'est pas vrai que tout le monde qui emprunte le pont peuvent prendre le transport en commun puis avoir voir leur problème réglé par ça, là. C'est de centre-ville à centre-ville, là, de Québec à Lévis. Si tu travailles tiens, Saint-Nicolas qui est juste au bord du pont, c'est pas là que t'arrives, là. Fait que ça te prend un autre transport en commun. Tu sais, tu ne subiras pas le trafic dans l'autobus ou les autobus, parce qu'une fois que tu seras à Lévis, ça va t'en prendre un autre transport en commun pour te rendre à ta destination ou dans le kilomètre carré de ta destination. Ça va revenir au même temps, sinon même plus long que de prendre ton char, même s'il y avait eu le trafic. Fait que je comprends que les gens ne sont pas satisfaits de ça.
C'est pas dur, là. C'est soit tu vois ça... Voyons, j'ai un chat dans la gorge. C'est soit que tu vois ça comme une promesse remplie à moitié, ou soit que tu vois ça comme une promesse pas remplie pantoute.
Ouais, c'est ça.
Il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de zone de gris, il n'y a pas... Ouais, mais là, ils ont vérifié, puis il y a moins de trafic qu'avant. Tu sais, il y en a qui vont... Puis il y a des études, il y a toutes sortes d'affaires qui ont été garochées là-dedans. Si tu bâtis un pont de plus, c'est clair que tu vas juste rajouter des chars sur un pont. blablabla. Bla, bla. C'est toutes des affaires qui font du sens, là. Sauf que, tu sais, regarde, là, je vais répéter ce que j'ai dit hier. Existe-t-il dans l'histoire du Québec moderne un projet de construction qui n'a pas divisé les gens? Tu sais?
Non, c'est sûr.
Nomme-les toutes, là. Le pont Champlain, rond-point l'Acadie, tout ce qui s'est passé à Québec, tous les travaux qu'ils ont faits sur Charest, en bas de la côte, tout le garde, là.
Les écologistes contre les automobilistes, tout le temps.
C'est ça, voilà.
Mais tu sais, le transport en commun, tu sais, c'est pas la même chose à Québec qu'à Montréal. À Montréal, tu peux te rendre rapidement, d'une façon précise, proche de ta destination. Avec le métro, ça va vraiment partout. Sinon, les autobus, mais juste le métro, super rapide. Ça arrête pas aux lumières, ça arrête juste aux stations. Et puis, tu peux te rendre n'importe où dans la ville. Tandis que Québec, et Colin, moi, je partais quand j'étudiais en radio, je partais de Saint-Émile pour me rendre en Haute-Ville de Québec. Ben, dans la côte d'Abraham. À mi-chemin entre la base puis la Haute-Ville de Québec. Puis ça prend à peu près 20 minutes en char. Trafic, pas trafic. Là. Ça ressemble à peu près à ça. Ça me prenait 1 heure et quart en autobus. Puis ça prenait 2 autobus. Puis tu sais, c'est pas aussi efficace qu'à Montréal. Fait que je comprends que les gens de Québec... aiment pas ça se faire la morale par les Montréalais. Bon, prends le transport en commun, ça va bien. Oui, ça va bien à Montréal. À Québec, c'est une autre affaire. T'sais. C'est 1 heure et quart de assis dans un autobus puant avec du monde qui pue. Puis, pour 1 heure et quart pour te ramasser à 15 minutes de ta destination, je peux comprendre.
Pas mal sûr qu'ils vont te mettre porte-parole du transport en commun.
Je penserais pas à Québec. Pas à Québec. J'ai assez vécu. C'est pas la même chose qu'à Montréal. C'est loin d'être aussi efficace, mais en même temps,
mais c'est pas qu'on garde l'avenir un non peu. Plus,
on peut pas
là.
Juste comme juste dire on règle ce problème-là ponctuel, puis en rajoutant des chars. Il faut avoir une vision d'avenir. Fait que je peux comprendre la décision de la CAQ. Puis je suis pas contre, mais je comprends la déception des gens de Québec. Je suis pas d'accord avec des propos comme ceux d'Éric Duhaime ou de Jeff Fillion. Là,
non, puis admettons-le, là, c'est particulièrement au débat qui avait eu lieu à Radio-Canada l'an passé, là, tu sais, François Legault, il a échappé le POC, là, sur ce dossier-là, là.
Ah, ben
oui, mais c'est sur où vos études, là?
Ah oui.
Ben écoutez, tu sais, fait garde.
Ils sont dans mon genre.
Tu sais, moi, quand un politicien commence par ben écoutez, là, c'est pas mal l'équivalent de quelqu'un qui commence ben oui, mais c'est parce que. C'est une des phrases les plus inutiles de l'histoire de l'humanité. T'sais. Rappelez-vous, toutes les fois vous allez vous être fait dire une phrase qui commence par ben oui, mais c'est parce que, c'est jamais positif. C'est pareil comme ben écoutez. C'est la même affaire.
C'est ouais, les études sont dans mon char avec celle du Doc Mayou, puis ouais. c'était pas clair, c'était pas ça allait pas avec la science. Tout ce qu'on demande, ce qu'on demandait en tout cas à l'époque, c'est d'avoir des données qui venaient nous montrer que c'était une bonne décision. Puis ils avaient pas les données. C'était une affaire d'opinion, c'était une affaire aussi électoraliste. Puis d'ailleurs, ça a marché. Il a été élu. Il y a beaucoup de monde qui ont été élus sur cette promesse-là. Puis Colin, c'est pas rempli.
Tu sais, je regarde, là, puis encore une fois, là, je suis pas urbaniste, je suis pas spécialiste en transport en commun, mais tu sais, dans mes souvenirs de trucs que j'ai lus, que l'implantation ou l'utilisation seule de transport en commun, comme dans des quartiers comme à Londres, tu sais, tout ça, où que tu peux utiliser un vélo, mais pas de véhicule, puis ainsi de suite. Tu sais, regarde, là. Tant que tu vas faire coexister des chars puis des écologistes ou de pousser le transport en commun, peu importe les motivations que tu vas te dire, tu vas puis avec le style wokisme master, ça va être épouvantable. Tu sais, c'est juste les woke qui veulent le transport en commun, tu sais, ça va être épouvantable. Mais il reste que au final, moi ce que je prétends, c'est que ça c'est mon opinion à moi. Je suis un woke. Puis tu sais, si tu préconises ou tu mets gros emphase sur le transport en commun, tu contribues à tout ce qui concerne l'écologie, les gaz à effet de serre, tu sais, tout ça. Fait que dans les grandes agglomérations, là, je te parle pas de, tu sais, à Béarn, t'as juste le droit de te promener en bicycle, là. C'est pas ça que je suis en train de dire, là. T'sais, tu comprends ce que je veux dire,
mais.
Tu sais, ou même, tu sais, là, la grosse mode des beltways aussi, là, les voies de contournement, tu sais, tu t'en vas aux États-Unis, tu sais, si tu veux passer dans Baltimore avec ton truck pis t'as pas de livraison à aller faire, là, tu peux pas, faut que tu fasses le tour, là. C'est bon, fait que là, Là, tu vas dire, ouais, ouais, mais c'est une bonne affaire, ça, parce que, tu sais, ça fait qu'il y a moins de trafic en ville. Oui, mais le truck, il brûle plus de gaz. Tu sais, c'est plus long, comme, tu sais, fait qu'à un moment donné, là, ça vient que, fait que moi, je pense que, tu sais, quand t'es en mesure de le faire, puis c'est clair que, écoute, là, c'est un choix, là. Décider d'utiliser le transport en commun versus la voiture, c'est un choix. C'est une décision qu'il faut que tu prennes à un moment donné pour quelque chose de plus grand que toi. Puis oui, c'est moins confortable. Oui.
Oui,
mais c'est moins pratique, oui. Mais est-ce que pour le futur de tes enfants puis de la société en général, est-ce que c'est le meilleur choix? Moi, je pense que oui.
Mais il y a du monde qui sont pas d'accord avec moi. C'est pas juste moins pratique ou ça marche juste pas. Tu vas aller.
Ouais, des fois, ça marche pas.
Tu vas aller t'acheter quelque chose d'un peu gros ou faire l'épicerie. Ben, je m'excuse, mais en autobus, c'est de la c'est de marde. Ça marche juste pas.
Non, non, c'est
pas qu'une TV 60 pouces en autobus.
Tu consommes autrement. T'sais, moi, je vais à pied au Super C. Ben, je peux pas faire une aussi grosse épicerie que si j'y allais avec un SUV. Là. Fait que regarde, je fais mon épicerie pour 2-3 jours, pas pour 3 semaines.
Oui, puis, mais on vit dans un centre-ville, Martin. L'épicerie est à côté.
Non, je te parle pas. Frank, j'ai pris soin de dire qu'il ne faut pas non plus faire que Béarn soit une ville, un village cycliste. Là,
non, non, je sais.
On s'entend, là.
Mais c'est ça.
Pour moi, c'est plus facile. Là,
oui, c'est
d'accord.
Ça. Pour nous autres, c'est facile. Moi aussi, je vais aller plus... Moi, à Montréal, je ne prends même pas le transport en commun. Je ne prends pas mon char non plus. Je prends mon skateboard. Ben, je fais tout avec ça. Je fais mon sac à dos. Puis c'est sûr que je m'achète pas de matériaux de construction ni de grosses TV.
Ben,
puis de toute façon, j'ai pas les moyens. Mais
tu vas t'acheter du plywood 4x8, toi, gars. Tu iras faire ça avec ton skateboard.
Non, non, mais c'est pour mes besoins à moi, mon skateboard me suffit. En plus, à Montréal, c'est bon jusqu'en décembre. Puis à partir de mars, tu peux recommencer à rouler. Fait que puis c'est ça que j'ai fait cette année. Mais c'est ça. Ça, c'est notre réalité de citadin au centre-ville. Mais par exemple, tantôt, on parle d'avenir, puis pendant que je parlais de décision, tu sais, à long terme, de voir dans le futur, je me suis rappelé de quelque chose, c'est que Québec a quand même décidé d'interdire la vente de véhicules à essence neuf à partir de 2035, ce qui fait que on va avoir tout le monde va être obligé d'avoir des véhicules électriques. Ça, pour vrai, c'est magnifique. Ça, c'est une maudite belle décision pour l'avenir. Puis ça va vraiment combattre les changements climatiques. Mais le tunnel qu'ils vont faire, là, c'est une affaire de long terme. Là. Ça va être au moins 100 ans. Là, est-ce qu'ils ont tenu compte?
Ça va bien.
Ça va peut-être prendre 100 ans de construire. Là. On sait qu'au Québec, ça finit souvent comme ça. Et évidemment, ça va coûter 3 fois le prix que ce qu'on va nous vendre. Là. C'est comme ça. Là. Les compagnies soumissionnent moins cher pour avoir le contrat. Puis après ça, ils se rattrapent en dépassement de coûts. En tout cas, théorie de complot de Frank. Mais regardez un peu comment ça s'est passé dans les 30 dernières années. C'est pas mal de ça que ça ressemble. Mais je pense que à partir du moment où les véhicules à essence vont être interdits, ça devient moins grave, il me semble, de laisser un troisième lien autoroutier si ces véhicules-là n'émettent pas de gaz à effet de serre. C'est sûr qu'il y a d'autres pollutions, la batterie, tout ça. Mais pour ce qui est des gaz à effet de serre, à partir de 2035, c'est supposé être pas mal réglé du côté automobile. Ouais, il va rester des bazous, là, mais je veux dire, les véhicules neufs vont tous être électriques. Si ce projet-là, si cette promesse-là est respectée, encore là, je pense qu'on n'a jamais la garantie, puis on vient de le voir cette semaine. Mais tu sais, il y a plusieurs facteurs qui entrent là-dedans, là, tu sais, puis sais-tu ce que je crains? Je crains que le tunnel ne soit pas utilisé tant que ça pendant qu'il va y avoir encore du trafic sur les ponts parce que le transport en commun est pas assez bien développé pour répondre aux besoins de la majorité des gens qui ont à traverser. Moi quand je prenais le pont quotidiennement, je partais de Québec, j'allais travailler dans une station en Beauce. Il n'y a pas de transport en commun qui aurait pu me rendre là. Fait que moi, ça n'aurait pas réglé mon problème. Puis je comprends les gens.
Il y a des endroits que j'appelle ça non praticables. Tu sais, que c'est hyper complexe se rendre en autobus. Tu as souvent donné l'exemple de Victo, mais tu sais, il y en a plein d'autres. Là.
Oui, c'est vrai, c'est impossible de venir à Victo.
Il n'y a pas de. Oh, ben oui, en fait, tu peux aller pas mal partout en transport en commun. C'est juste que quand je dis que c'est non praticable, c'est que, tu sais, il y a une journée que tu peux partir, il y a une journée que tu peux revenir. T'sais, si tu as à faire un call d'affaires, mettons, puis que tu veux prendre l'autobus pour aller à Victo, faut que tu passes la semaine là. Oui, c'est un peu ridicule.
Et ça coûte trois fois le prix de ce que ça coûterait en essence avec mon petit char économique, là, gros comme une bine.
Ouais, mais moi, je te parle même plus. Je te parle pas juste d'une question de prix, là. Tu sais, parce que ça veut pas non plus dire que tout le monde a à se déplacer autant que toi, puis veut prendre le transport en commun. T'sais, ça peut être un one-off à un moment donné que tu dis, ben oui, ça coûte plus cher. Moi aussi, quand je vais au Témiscamingue, ça me coûte bien plus cher que quand j'utilise un véhicule, même si c'était pas un petit véhicule comme le tien. Ça me revenait plus cher pareil. Là, ouais. Sauf que regarde, là, j'y trouvais des avantages. Je pouvais gosser sur mon laptop. Ben oui, je pouvais travailler. Je pouvais, écoutez, j'avais pas le stress de conduire, whatever.
Mais pour vrai, moi si j'avais le choix de partir de l'Abitibi puis aller à Montréal, si j'avais les moyens de prendre le transport commun, les autocars, ben, moi, je prenais ça. Pourquoi?
Ben, moi, je prendrais l'avion.
À place de conduire pendant 8 heures comme ça, puis fatigué, ben écoute, c'est pas super confortable, mais je m'installais quand même pas pire avec un laptop, une tablette, je pouvais écouter un film, dormir, tu sais, puis c'était...
Ouais, puis
c'est
pas,
beaucoup plus confortable, puis t'as pas à te casser la tête, c'est beaucoup plus relaxant. Moi, j'aimais ça. J'aime me promener en autocar. Je suis pas quelqu'un qui dit « j'ai ça, puis... » Non, moi, j'aime ça, même si c'est un peu plus long, c'est tellement moins de troubles, puis c'est un peu plus long, tu dors! Je trouvais ça moins pire.
Garde, mettons des chiffres à ce qu'on dit, là. À l'époque où moi, je m'en servais souvent, là. OK? Faire l'aller-retour Montréal pour aller au Témiscamingue, OK? En voiture, ça me coûtait 160$. Ça me coûtait 80 pour monter, 80 pour revenir avec un VUS de petit format. OK? 80, 160, ça me prenait... On va faire gros chiffron, 8 heures aller, 8 heures venir, 16 heures. OK? En transport en commun, ça coûte 250$ minimum. OK? Puis ça te prend 4 heures de plus, je te dirais. 2 heures de plus y aller, 2 heures de plus revenir. OK? Fait que là, tu pars avec ça. 250$ aller-retour. Moi, là, éventuellement, là, si ça coûtait, c'est 500$, là. Mais si c'était 300$ en avion, je prendrais l'avion.
Ah ben oui.
Tu sais, je veux dire, si c'était... Là, tu vas te dire, ouais, mais là, l'avion, c'est moins écologique. OK, ah, mais là, dans des circonstances particulières, tu sais, sauf que j'arrive pas au Témiscamingue, j'arrive à Rouen. Fait qu'il faut que je reprenne un bus, pareil. Je me claque une heure et demie, tu sais.
Ben, une heure et demie en char. En bus, ça doit être un peu pire. Mais, ouais, dans les commentaires, tu sais, on utilise Communauto pour visiter ma mère à Place Civile.
Oh, il y a ça aussi.
Bon. Communauto, ouais, le problème, en tout cas, si j'ai bien compris, là, moi, je suis pas membre de ça, là. Mais un, faut être membre, ça coûte de l'argent, mais aussi, il faut la réserver d'avance, la Communauto. Fait que, tu sais, c'est comme, bon, ben, jeudi à 14h, tu peux planifier un voyage, mais si tu veux, tu veux mettre, hey, moi, je suis à Montréal aujourd'hui, ou ben
non, mais je t'explique, c'est toujours le même trouble. À Montréal, ils entraînent partout des Communauto. C'est si t'es à l'extérieur que c'est plus difficile. Mais à Montréal, t'as pas de trouble.
Faut pas les réserver d'avance,
toi, tu sais. Ben non, oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a plein. C'est ici, la base.
Oui, oui, je comprends qu'il y en a plein.
Ben,
là,
mais... C'est plus simple. Là. Oui, il faut que tu réserves. Tu peux pas... c'est pas premier arrivé, premier servi. Ah, je vois un Communauto sur Ontario, je pars à la course, je le prends. Puis tu sais, je slide ma carte dedans. Là. Non, c'est pas
non,
ça.
Non, mais je suis pas en train de dire que c'est pas une bonne affaire.
Ils sont plus centralisés ici. C'est rien que ça que je dis, Frank.
Oui, non, mais c'est pas en fonction de la disponibilité que je dis. C'est que moi, tu sais, je suis pas du genre à savoir exactement ce que je fais dans deux jours puis tout planifier mes affaires d'avance. Puis aussi, tu sais, si je veux... Mettons, ma blonde est malade. Hey, tu viendrais-tu me voir t'occuper des enfants? Je file vraiment pas. Je vais me réserver un char. Je vais être là demain, après-demain. T'sais. Ouais, mais c'est là qu'elle a besoin. T'sais. Fait que t'es un peu l'esclave de cette patente-là. Mais je comprends que pour bien du monde, ça peut être super pratique. Puis c'est une bonne chose. Oh, oui, c'est un appoint.
C'est plus un appoint. Puis tu sais, garde.
T'es pas indépendant, tu sais, comme si t'avais un véhicule.
Garde, on va tout de suite régler une autre affaire. Si t'es pas propriétaire de ton véhicule, Frank, t'es pas indépendant.
Non, enfin, c'est ça.
C'est tout.
Ouais, c'est
ça. Fait que là, on peut sortir 25 cas d'espèces, là, ça va tout t'amener à ça. Là.
C'est ça. C'est pour ça que Communauto, c'est une belle solution occasionnelle, mais c'est pas quelque chose sur lequel tu peux te fier, puis tu peux, c'est pas comme avoir un char. Fait que si t'as des besoins qui peuvent être ponctuels, puis qui sont pas planifiables, communauté règle pas ton problème. C'est juste, mais ça règle bien des problèmes, puis c'est une très bonne chose. Je suis pas contre, là. Je trouve que c'est une bonne affaire. Mais tu sais, il y a rien qui va jamais remplacer le fait d'avoir son propre véhicule, d'avoir la liberté de pouvoir embarquer dedans, puis aller où tu veux, point A à point B. Avec les communautaires, faut que tu prévois, puis avec les autobus, ben c'est point A à point C, puis après ça, point C à point B. Tu sais, c'est...
La meilleure solution, moi, je pense, pour vivre en plein centre-ville depuis une couple d'années, tu sais, c'est vraiment le portefeuille d'accès que tu as à différentes affaires. Ça peut être ton vélo, ça peut être Uber, ça peut être le métro, ça peut être le bus, ça peut être le taxi. C'est de devenir... Faut que tu te familiarises avec toutes ces options-là que tu as, puis là, ben tu viens pas mal à bout de t'organiser pas mal n'importe comment. Mais dès que tu dois sortir du centre-ville / périphérie, là que c'est différent. Puis si t'es pas propriétaire de ton véhicule, t'es jamais autonome.
Moi, c'est la seule raison pour laquelle j'ai un véhicule. Quand je me suis débarrassé de mon SUV, ben, en tout cas, je me suis débarrassé pour un autre véhicule, mais si j'avais... Si j'en avais eu l'opportunité, j'aurais pas acheté un autre véhicule. J'aurais juste vendu mon vieux Cancer, puis ça aurait été tout. La seule raison pour laquelle j'ai un véhicule, c'est pour pouvoir sortir de Montréal quand je veux sortir de Montréal, puis y revenir quand je veux y revenir. Puis d'ailleurs, ma blonde qui est à Victo, ça existe pas le transport en commun pour se rendre à Victo. Là. Comme tu disais tantôt, tu peux prendre l'autobus de Montréal puis aller à Victo, mais tu vas attendre une semaine avant de pouvoir revenir. Fait que ça me convient pas. Mais si j'aimerais mieux pas avoir de char. Moi, c'est un paiement dont je me passerais. Puis je veux dire, il me sert à rien en ville. Il est park. Moi, quand j'arrive à Montréal, je le park. Puis je le déplace juste quand les agents de stationnement, tu sais, entre telle heure et telle heure, faut que tu bouges ton char, puis tu sais, avec leurs attrapes de même. Puis... Mais sinon, il bougerait jamais. Mon char, quand il est à Montréal, il ne bouge jamais, jamais que je m'en sers. C'est même pas arrivé une fois, là. C'est toujours pour sortir de la ville puis revenir en ville. Puis si je pouvais m'épargner cette dépense-là, puis si j'avais pas besoin de véhicule pour faire ça, j'en aurais pas de véhicule. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté le plus petit char possible, qui coûte le moins cher de gaz, non pas électrique, parce que ça aussi, il faut que tu sois en moyen pour t'acheter un char électrique. Puis il faut que tu sois patient. Faut que tu l'attendes là, des mois, si c'est pas des années, dans le cas des Tesla. C'est ça, les véhicules électriques coûtent beaucoup plus cher, puis il y en a moins des vieux sur le marché. Moi, j'ai acheté un véhicule le plus économique possible parce que j'avais ce problème-là à régler. Mais j'ai cherché des solutions. J'aurais aimé vouloir m'en passer d'avoir un véhicule à payer, à entretenir, à stationner en ville. Stationner à Montréal, c'est un vrai cauchemar, au centre-ville en tout cas. Puis j'aurais aimé mieux pas avoir de char, mais je suis obligé, puis ça, je trouve ça plate.
Moi, je pense qu'on a dit tous les exemples possibles et imaginables.
Moi, je pense que oui. Tiens, on va faire un petit dossier. En tout cas, c'est Guillaume Lemaitre-Vierge, qui avait tenté une poursuite contre la presse pour avoir dévoilé son statut vaccinal. En tout cas, moi, il était connu. C'était-tu avant ou après Tout le monde en parle? Puis en tout cas,
c'était après le passage de Duhem, mais c'était avant son shit show à la disque.
Ah oui, ouais, ça, pour vrai, c'était un peu ridicule. Ouais, mais le shit show, c'était un peu en réponse à ça. Là, il se sentait ostracisé.
Ben, moi, c'est pas dur. Moi, Frank, là, ma première réaction à ça, là, ça a été OK. Là, t'as décidé parce que là, tu viens de réaliser que bon, on est sorti de ça. Puis que, tu sais, t'as un peu... c'est toujours la même affaire, là. Est-ce que ça a vraiment causé préjudice à Guillaume Lemaitre-Vierge? Est-ce qu'il y a eu moins de rôles? Est-ce qu'il a perdu des gigs? Est-ce que ça a été la faute de la presse ou la sienne? Ben, OK? Parce que la presse a rapporté des choses, puis lui, ce qu'il prétend, c'est qu'il a parlé de son statut vaccinal, alors que c'était pas de leurs affaires. Il a pas tort. Sauf que, est-ce que juste ça, c'est assez pour gagner une poursuite en libelle puis en diffamation comme ce sur quoi il s'en allait, là? Mais après ça, après que t'as entendu ça, ben oui, mais là, si tu te couvres de ridicule, si dans des galas pis tout, là, tu viens de la perdre ta cause. Puis moi, je suis pas mal sûr que c'est ça qu'un avocat, il a dit, Guillaume, si t'avais arrêté toutes tes somarcettes, là, après, là, peut-être que t'aurais de quoi dans les mains. Mais là, tu t'en vas, tu sais, hijacker le gala de la disque. Écoute, là, c'est n'importe fucking quoi.
Lui-même,
il a fait un live dans son char avec son sel à verticale.
Un live de conspi. Mais tu sais, dans l'article, on disait bon, qu'il avait perdu un contrat de réalisation d'épisode de District 31 parce qu'il n'était pas vacciné. Mais c'est pas à cause de l'article, c'est parce qu'il n'était pas vacciné. Puis sur le plateau, on demandait à ce que les gens soient vaccinés.
C'est ça.
Puis bon, ça, ça a sorti. Mais je veux dire, c'est de sa faute à lui. Il n'a pas voulu se faire vacciner.
Ben non, c'est ça. Fait que c'est tellement maillé.
Puis on avait aussi révélé que dans des restaurants, il avait insisté pour pouvoir rentrer dans la salle à manger, même s'il n'y avait pas de preuve vaccinale. Regarde, là, le règlement, c'est le règlement. Vedette, pas vedette, là. Tu peux pas rentrer. Mais comment ça s'est su? Crime, il y a quelqu'un qui l'a raconté, puis ça pourrait être lui, là.
Comme c'est souvent le cas, Kate Vézina vient clore cette question vraiment de façon magistrale. Pour avoir atteinte à la réputation, la base, c'est d'avoir une réputation à atteindre.
Ben, voilà. Je pense qu'il y avait quand même une bonne réputation avant ces événements-là. Là.
Non, mais je crois qu'il y avait une mauvaise réputation. Bien, là, à partir du moment qu'il a voulu continuer d'occuper ses fonctions sans être vacciné puis qu'il se lamentait du fait qu'il était obligé. Par rapport au libelle dont il fait mention.
Oui, c'est le pirate dans la série qui s'aborde son propre bateau. Là.
Ben oui, t'sais, c'est ça.
puis t'sais,
je ne dis pas qu'il avait mauvaise réputation avant ça. Je te parle en lien avec la nature de sa poursuite. C'est juste ça, là. Mais je dis rien contre Guillaume Lemaitre-Vierge avant ça.
Moi, je pense que si c'était juste son statut vaccinal, il y aurait eu moins de préjudice. Sauf que Guillaume, t'as fait le conspi. Il a contacté des collègues dans le milieu artistique, d'autres artistes, leur dire que des gens qui appuyaient les mesures sanitaires, que c'était du lavage de cerveau. Ben, je m'excuse, mon Guigui, là, mais c'est agir en conspi. T'es allé faire pression sur tes pairs pour leur dire que c'était du lavage de cerveau. T'es allé faire de la propagande conspi dans ton milieu. Puis après ça, t'es allé te ridiculiser en public. Je comprends que Hyundai voulait plus s'associer avec toi. D'ailleurs, c'est ça le litige de la poursuite de 1 million. C'est ce qu'il aurait perdu... en contrat de publicité. Mais écoute, une compagnie, ça a une image publique, puis cette image publique-là, si elle est entachée par le porte-parole s'en va. Ben, t'as tout fait pour que ça arrive. Puis ce qui est spécial là-dedans...
Même s'il y a le droit, Frank, il avait le droit, là, fondamentalement, il avait le droit de ne pas être vacciné, oui. Sauf que ça s'accompagne de responsabilités. Fait qu'au même titre que toi, tu avais le droit de ne pas te faire vacciner puis perdre des contrats parce qu'il y avait des mesures sanitaires sur les plateaux, bien, Hyundai a le droit de ne pas vouloir s'associer à quelqu'un qui est contre les mesures sanitaires. C'est pas compliqué, là.
Voilà. Puis ce qui est comique, c'est que ses avocats ont dit les révélations qui ont été faites par la presse sont des faussetés qui ont induit le public en erreur, qui ont laissé au lecteur l'impression générale que le comédien était un anti-vax. Mais Guillaume, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il était fâché parce que ses informations intimes et personnelles sur son statut vaccinal ont été révélées au public sans son consentement. Ben écoute, les journalistes n'appellent pas les vedettes avant de dire des potins sur eux autres. Là. Ça, c'est tu devrais savoir. T'es né là-dedans, Guillaume. Là. Mais ce qui est comique là-dedans, c'est qu'il contredit son avocat qui dit que c'est des faussetés. Il dit non, c'est pas que c'était des faussetés, c'est que je voulais pas que le monde le sache. Mais oui, mais t'es une vedette, puis t'as appelé tes collègues de l'UDA pour le chier tes théories de conspiration dans la tête, leur reprocher de faire partie d'un lavage de cerveau. T'as fait un shit show à la disque, t'es allé broyer à tout le monde en parle. C'est toi-même, t'en as fait beaucoup. Là. T'as révélé plus que ce que la presse a révélé. Je pense que ce qui t'a plus causé de tort, c'est tes agissements puis pas les petites informations que la presse a révélées et avait le droit de révéler, apparemment. Fait que je pense que M. Thivierge avait pas de case, comme on dit dans la langue de Molière. Puis c'est pour ça qu'il abandonne la poursuite, parce que crime, ça semble en tout cas assez facile de démontrer que les litiges dont il a été victime ont été causés par lui-même.
JF King qui mentionne que apparemment le CEO de Hyundai en Corée aurait offert 10 millions pour la recherche pour un vaccin contre la COVID. J'ai cherché la nouvelle vite, vite. Je ne contredis pas du tout JF. Mais si ça, c'est le cas, ben, regarde, tu te crissais le pied dans la gueule puis l'autre dans le derrière. Là,
ben oui, c'est lui veut combattre la COVID. Toi, tu veux, celui veut combattre la, celui qui te paye veut combattre la COVID en finançant un vaccin. Puis toi, tu veux combattre le vaccin. Ça se peut que tu ne correspondes plus vraiment à l'image que l'entreprise veuille projeter, mon Tigui.
Parlant de vaccin, Frank, parce que j'ai 3-4 petits cossins en rafale, puis j'ai pas mal de tweets mais je voulais te rapporter quelque chose qui s'est passé, en fait, qui a été couvert à l'époque par un journal, le Chattanooga Times Free Press, qui parle de Marjorie Taylor Greene. Parce qu'on va la revoir tantôt dans les tweets de Twitter.
Dis pas mais ce nom-là, quand donc, je prends une gorgée de café, j'ai failli...
Imagine-toi donc qu'il y a un reporter, en fait, ça a été rapporté dans le Chattanooga Times Free Press que Marjorie Taylor Greene avait déclaré des revenus d'actions auprès de AstraZeneca, Pfizer et Johnson & Johnson.
Un anti-vax qui investit dans le vax.
Ben non, mais là, Frank, ben non, voyons, ils font pas juste des vaccins, ils font de la peau de bébé, Johnson & Johnson, oui. voyons.
Non, mais c'est parce qu'elle voulait utiliser cet argent-là pour finalement les combattre après ça.
Ils font du Viagra.
C'est une stratégie.
Font du Viagra, puis tout. Ah. Mais donc, il y a un formulaire de disclosure, donc un formulaire de dévoilement qui sur laquelle le journaliste a mis la main, qui rapporte qu'elle aurait fait entre 201 et 1000 piastres de l'une et l'autre de ces compagnies-là. Ça ne dit pas combien pour quelle. Puis tout, fait que c'est quand même assez particulier. Te souviens-tu également, je te fais ça vraiment comme en bloc, là, comment il s'appelait ce champion-là? C'est Mike Lindell, je pense, le fameux président des oreillers, là, Mike Pillow. Je ne sais pas tu te rappelles, il avait lancé un défi à tout scientifique ou peu importe, programmeur, analyste, développeur de logiciel, s'il était capable de débunker sa théorie selon laquelle les machines Dominion avaient altéré les résultats du vote. Ben, il y a un gars qui a réussi! Fait que là, pis ça, tout ça avait été, comment dirais-je, pas légalisé, mais ça avait été rendu officiel. CNN s'est impliqué là-dedans et tout ça. Puis là, ben, le comité que les deux parties ont accepté de mandater pour déterminer du fait ou non que la personne qui aurait réussi a réellement réussi, ben, c'est elle qui chapeaute ça. Puis elle a entériné les résultats présentés par le monsieur en question. Et là, ben, Mike Lindell, il doit 5 millions. Ben là, évidemment, tu te doutes bien que... Hein, on va avoir droit à... Ben non, mais là, c'est pas pareil.
Mais je pense qu'il poursuit de Dominion contre lui aussi, hein, Mike. Ouais,
absolument, tout à fait.
Puis ce qui est drôle, c'est que, genre, pas plus tard qu'hier ou avant-hier, Mike Pillow, cette espèce de gros tata, tu sais, c'est le Dan Pilon, là,
c'est des clin, ça. Puis même, je me demande même si, à un moment donné, Sornette Strudel était pas venu à bout de l'avoir en entrevue, ou je sais pas trop.
C'est une pute à Kodak,
là. Ouais, c'est ça.
Mais tu sais,
il doit 5 millions.
Il fait beaucoup penser à Dan Pilon, c'est un gros tata qui sait pas de quoi il parle, puis qui dit n'importe quoi qui passe par la tête, puis pense c'est des nouvelles. Sa réaction au règlement de Fox contre... Tu sais, lui, il reproche à Fox d'avoir payé le règlement. Pourquoi? Ben parce que Dominion sont coupables! Puis, tu sais, il écrit tout le temps, ce style-là.
Ouais, mais il y a un élément majeur que tu oublies, par exemple, par rapport à Mike Lindell, c'est que contrairement à Dan Pilon, lui, il a réussi.
Ouais, lui, il fait de l'argent. Lui, il fait de l'argent, puis, tu sais, il n'y a pas besoin de s'inventer des codes d'écoute astronomiques, là. Puis de, mais il invente d'autres choses, tu sais, je veux dire, mais. C'est juste le caractère, là, tu sais, puis.
Parce qu'au côté de l'autre, ça se ressemble.
Qui sait pas de quoi il parle, là, puis qui souscrit à des théories de conspiration, mais effectivement, en business, il l'a pas pire. Il l'a mieux que le conseiller financier.
Disons que pour. Sans vouloir défendre M. Lindell, quand tu regardes Mike Lindell, c'est pas le même look que Dan Pilon. On va dire ça comme ça.
Ben, mais les deux font dur à leur façon.
Je vais te lire l'article. M. Lindell, auteur de conspiration électorale, a juré d'accorder la somme de plusieurs millions de dollars, c'est 5 en fait, à tout expert en cybersécurité qui pourrait réfuter ces données. Un comité d'arbitrage a accordé mercredi 5 millions de dollars à Robert Zeitman, qui a des dizaines d'années d'expérience dans le développement de logiciels, après qu'il a poursuivi Lindell pour cette somme. CNN a obtenu des documents d'arbitrage et des dépositions vidéo, y compris une déposition de Lindell concernant ce litige. Fait que, en plus de tout le reste, ben, il va probablement devoir 5 millions pardon, à quelqu'un suite à cette à ces trucs-là qu'il a avancé. Parlant de Maillet, ben on continue. Hein, c'est hier que ça s'est passé, Frank. Blocage du pont-tunnel. Les Farfagnais sont allés plaider, bien sûr, leur philanthropie, n'est-ce pas? Écoute, parce que là, évidemment, c'est des représentations sur sentence. Parce qu'ils ont déjà été jugés coupables. Mario Roy, lui, ça a été repoussé au 22 juin parce que, figure-toi donc, il va se présenter avec un témoin vedette, nul autre que le Doc Mayo. Alors, je sais pas pourquoi il va aller là. Ça va être incroyable. Je considère très fortement de me rendre sur place. Je veux voir ça.
Je vais peut-être y aller avec toi.
Je veux voir ce shit show-là.
Ah non, okay, Mousse de Nombril vient d'écrire Mike Lindell ressemble à un manager de lutte. Oui, il ressemble à comment il s'appelle le manager de Undertaker là?
Paul Bearer. Ouais, ben, il fait penser mais beaucoup de livres en moins, mais oui, il fait penser.
Oui, tu sais, puis j'aimerais ça qu'il parle comme lui. Ça serait, je l'aimais, moi je trouvais cool ce personnage, me faisait rire.
Évidemment, on était là pour Carole Lalouve et Steve Pacharlan. Et voilà, ils ont plaidé pour la clémence. Ils demandent une absolution parce que, écoute, nous autres, on a aidé les démunis, c'est 230 000 piastres. Alors, le juge a fait la même demande que tous les farfagnais qui sont exilés de cette secte, c'est-à-dire, sont où les livres? On veut voir les livres.
Mon moulin que t'as fait ce don-là. Tu peux le dire, là. Tu peux dire bien des affaires. C'est tu peux dire magistral. Que t'es allé sur la lune aussi.
C'est magistral. Fait que là, ben, ça serait ce qui est en cause, là. Donc, ce qui pourrait se produire, c'est entre 120 et 150 heures de travaux communautaires. On verra, là. J'imagine que c'est rendu en délibéré. Le magistrat a annoncé qu'il rendra sa décision, voilà, en juillet. Important aussi. Charland, de son côté, a affirmé avoir redistribué des sommes considérables grâce aux dons et la vente d'articles au nom des farfagnais durant la pandémie. Il dit avoir depuis mis de côté le militantisme pour se concentrer sur ses terres en Outaouais.
La vraie vie.
Et voilà, donc, quel homme, okay, quel homme. Et puis là, j'en ai une dernière.
La musique. Donc, Canard Illimité Canada, une affaire là-bas.
Les merveilles de la faune. J'en ai une dernière pour toi, parce que je veux pas la mettre dans les tweets de tweet avant la pause. Écoute, il y a une organisation qui s'appelle lawsuit.org. OK? Je prends ça pour ce que ça semble être. C'est une espèce de blog, mais qui a été mis en ligne par un ancien avocat qui a beaucoup d'expérience, qui a passé le barreau il y a longtemps. C'est dans son équipe, si on veut, il y a plusieurs journalistes juridiques. Ça a l'air sérieux, OK? Ça a pas l'air. Il n'y a pas de données, il n'y a pas de levée de fonds, il n'y a pas de. Tu sais, bon. C'est pas non plus trop bariolé de pub de Google AdSense puis ainsi de suite. Okay. Le mandat que eux se donnent, c'est vraiment de démystifier certaines lois, de faire comprendre aux gens que les lois sont pas pareilles dans chacun des États. Évidemment, ils font du contenu également, là, puis ça va t'intéresser. Bon, ils ont quand même un petit agenda politique que tu vas comprendre en voyant ceci. Mmh. Eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé, parce qu'ils se sont penchés sur la question vraiment purement de c'est quoi la phobie que les États-Unis ont avec les transgenres, avec les drag queens et tout ça. Mais eux autres, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est qu'ils ont analysé les résultats de recherche Google des démocrates et des républicains. Fait que là, je vais te montrer une carte. Il y en a plusieurs, là. Vous irez voir l'article. Le lien vers l'article, je vais vous le mettre tantôt. Puis il est sur mon compte Twitter aussi, @gomart. Ça ici, là, ce sont les... Bon, je vous rappelle que le rouge, c'est républicain. Le bleu, c'est démocrate. OK? Et là, vous allez voir, plus c'est foncé, plus il y a une densité de recherche intense. Il y en a dans les démocrates aussi, là. Puis côté éparpillement, c'est très éparpillé aux États-Unis, mais du côté des chiffres absolus, il n'y a même pas de compétition, là. Mmh. Ce sont les républicains qui font le plus de recherches. Ça, là, c'est des recherches, c'est pas des recherches sur transgender, whatever, là. Regardez en bas, c'est écrit en tout petit, là.
She-mail.
C'est des recherches sur le terme she-mail.
Oui,
OK. Okay? Fait que il y a plus d'États avec du bleu, mais les rouges, c'est plus intense.
Oui. Okay?
Je vous invite fortement à aller lire l'article, parce que dans l'article, je vous ferai pas ça ici, parce que c'est ben trop long. Puis c'est parce qu'il explique la méthodologie qu'ils ont utilisée, là. Ça s'est pas fait comme sur le coin de la table avec une napkin, là. Tu sais, il y a eu un procédé de recherche dans cette affaire-là. Et c'est pas mal, l'article, il est pas mal intéressant, tiens. Attendez un peu. Bon, évidemment. Je vais aller, donnez-moi deux secondes, là. Je vais juste aller. Pourquoi que ça me niaille, ça? Fait que, puis c'est ça, là. En fait, les outils de recherche qu'ils ont utilisés, c'est carrément pour ce qui concerne transgender pornography, là.
Mm-hmm.
C'est pas juste, tu sais, parce que là, ils vont dire, ah, oh, c'est parce qu'on voulait faire des recherches, ou tu sais, on voulait checker qu'est-ce qui se passe avec ça, puis que c'est absolument incroyable, les résultats. Je vais juste te donner vite fait, là. Bon, fait que là, il y a les mots femboy. Il y a les mots « she-mail », les mots « clics », là. Dans quels états sont-ils le plus obsédés avec la recherche de porn qui concerne les transgenres?
Les plus de pornographie
exactement. Ben écoute bien ça, là, je te fais le top 5. C'est le Texas, la Georgie, le Kentucky, le Missouri et le Kansas.
Après ça, on se demandera pourquoi on se méfie quand quelqu'un est trop contre les homosexuels, trop contre les transgenres. Souvent, c'est parce que ils essaient de réprimer, ou plutôt ils voient un côté en eux qu'ils aimeraient ne pas avoir. Tu sais, c'est combien de fois on a vu des pasteurs qui étaient virulents là, contre les homosexuels, puis on les pognait avec des garçons dans une chambre d'hôtel. Tu sais, c'est
ce que vous avez vu là pour la rigueur là. Ça a été pris, ça, et c'est des données qui ont été compilées et analysées, pas cette année, là, entre le 1er juin et le 19 juin 2022. Comme quoi, tu sais, ça donne l'impression qu'ils savaient qu'à un moment donné, il faudrait qu'ils en parlent. Mais vous avez toute la méthodologie, toutes les limitations des recherches qui ont été faites dans le lien que je vous ai mis dans le chat. Puis il est également, parce que le chat disparaît évidemment là, après que la VOD s'en va, si vous allez sur mon compte Twitter, G-A-U-M-A-R-T, vous allez trouver le lien, puis vous allez tous pouvoir voir ça. C'est absolument magistral comme recherche. Puis il y a bien plus de filtres que ça, là. Parce que le mot-clic transgender porno, c'est les States, ils sont rouges, là.
Oui.
Ils sont pas bleus, là, ils sont rouges, là. C'est tous des républicains qui sont allés checker ça.
Et si ils n'étaient pas dans une semi-théocratie et que la religion n'avait pas toute cette influence-là qui est malsaine, ces gens-là probablement pourraient embrasser leur orientation sexuelle et la vivre ouvertement et être heureux, plutôt que la vivre en cachette, avoir honte parce qu'ils pensent que c'est un péché puis que c'est mal, puis aller militer un peu trop contre ces gens-là dans le but de cacher que, dans le fond, ils en font partie, ça les excite sexuellement. Puis moi, je pense que c'est ça qui les met tellement en tabarnak. C'est que ils peuvent pas réconcilier leurs valeurs religieuses avec leur préférence sexuelle. Puis il faut absolument, dans leur société, tu peux pas, dans leur cercle conservateur chrétien, tu peux pas avouer, tu peux pas vivre librement cette préférence sexuelle-là. Fait que pour sauver les apparences, ils deviennent des super militants anti-gays. C'est pas la première fois qu'on voit ça. Ça arrive souvent là, qu'on prend des... Aux États-Unis, il y a plein de dossiers, ça a fait des nouvelles souvent. Là, des leaders religieux ou des républicains du monde qui se battaient bec et ongle contre les homosexuels. Finalement, on découvre qu'ils étaient homosexuels. C'est juste que leur lavage de cerveau religieux les empêche de vivre ça sainement. Puis pour eux autres, c'est un péché. Puis ils en ont honte. Puis ils s'en cachent en faisant ces affaires-là, tu sais, quand quelqu'un milite trop fort contre quelque chose, il y a une petite partie de moi qui le soupçonne d'en faire partie.
C'est une théorie.
Les homosexuels! Moi, si tu fais ça devant moi, J'ai l'impression qu'il sommeille en toi un petit gay refoulé qui ne peut pas s'exprimer autrement que par ce genre de réaction enragée-là. On va aller faire une petite pause, puis on revient avec les tweets de la semaine, puis pas qu'à faire le fun.
Abonne-toi à notre Patreon et découvre des centaines d'heures de contenu. Tu auras aussi accès à la légendaire Chambre froide.
Rire et facepalm garantie.
Chill Matt me dit donc, tu veux dire quoi sur Amalega, Frank? Rien, je suis pas là pour psychanalyser quiconque, je fais juste relever une tendance qui me frappe dans ce genre de dossier-là. C'est arrivé assez souvent que je pense qu'on peut parler d'une tendance. Je ferai pas de cas particulier parce que je connais pas ces gens-là personnellement, mais quand je vois un militant anti-gay se faire prendre avec des garçons, ben je trouve que ça dénote un phénomène qui semble exister, mais je peux pas parler de cas particuliers, je le connais pas, François Malégas, puis même si je le connaissais, ça me regarde pas son orientation sexuelle, mais
tu voulais sûrement dire se faire prendre en photo avec des enfants.
Ben, ouais, se faire prendre en photo ou se faire poursuivre par, tu sais...
Je parlais juste avec
quelqu'un de même sexe, là.
Je voulais juste m'assurer de bien comprendre ton point parce que je pensais que tu parlais d'Amalega et tu as dit textuellement se faire prendre avec des enfants.
Ah, c'est vrai?
Je pensais que tu parlais de se faire prendre en photo.
OK, non, je parlais genre que les pasteurs qui se font prendre à avoir des relations, soit avec des enfants ou avec, mais surtout avec des gens de même sexe. Mais c'est parce que j'ai en tête un pasteur justement qui était extrêmement homophobe, puis contre toute forme de sexualité qui n'est pas sanctifiée par le mariage, puis il s'est fait pogner avec des prostituées mineures mâles. Là, c'est, je me rappelle plus de son nom.
Je voulais juste être ton winger là-dessus.
Non,
là,
pour être sûr que tu... tant que quelqu'un se fait... Je commande ceux qui se sont fait prendre puis que ça a fait l'actualité. La vie sexuelle d'Amalega, c'est quelque chose qui m'intéresse pas dans la vie, c'est bien ça. Puis je les connais pas puis je vais pas commenter ou commencer à inventer des affaires. Là,
parlant d'inventer des affaires, ben on va aller rejoindre notre amie Marjorie Taylor Greene, parce qu'écoute bien ça, elle a commenté bien sûr sur le dossier du settlement qui a eu lieu entre du règlement hors cours qui a eu lieu entre Dominion et on va faire ça, traduire ça sur la mouche là. À la pointe d'un fusil, figure de style bien sûr, le gouvernement a rendu silencieux toute critique au sujet des machines pour voter. L'accord qui est survenu entre Fox News et Dominion est un des plus grands assauts qui se soit jamais produit sur le premier amendement de la Constitution américaine. Lorsque la presse et les gens ne peuvent donner leur opinion à propos d'une compagnie qui est payée par le gouvernement ou l'État pour s'occuper de nos élections, nous sommes officiellement devenus un pays communiste. Là, il n'y a aucune allusion au fait que ce qu'ils ont dit, c'était de la bullshit. C'est juste des opinions. Mais ça leur. Tu sais, fait que. T'sais, comme à quel point, Frank, il faut être déconnecté pour pas comprendre que c'était un libelle, que c'était des faussetés et que ça entachait la réputation d'une compagnie et que ce n'était pas seulement qu'une opinion. À quel point il faut être débranché de la planète, là? Incroyable.
Écoute, on parle de la madame des Jewish Space Laser. Là,
oh ouais, non, c'est sûr, mais regarde, ça n'a aucun espèce de bon sens. On s'en va rejoindre mon chum André Arthur, live du paradis. Il m'a bloqué, fait que ça a fonctionné parce que j'y vais beaucoup moins souvent, mais celle-là, je peux pas la laisser passer. La porte-parole de la CAQ, Régine Laurent, fait toute une dithyrambe sur Éric Duhaime et sa pétition contre le wokisme. Il parle évidemment du voyeul. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on revient de loin. Si seulement Régine avait eu une once de crédibilité, de la bonne vieille bouse de vache fraîche.
Ah, ben écoute, on croirait vraiment le vrai André Arthur.
C'est très édifiant. Hein?
C'est un vieux réactionnaire.
Ça démontre encore une fois. Oh, et ça démontre encore une fois à quel point c'est un personnage nocif, toxique.
Oui, même mort, il continue d'empester le.
Puis là, les rumeurs veulent que ce serait son fils. J'ai aucune preuve de ça. Je le sais pas, mais il y a une affaire qui est sûre, c'est que c'est une pompe à marde informationnelle absolument incroyable.
Puis à cette personne-là qui gère ce compte-là, là, même si c'est son fils, là, si André Arthur revenait à la vie pour voir que tu utilises son nom pour aller accrocher du monde puis avoir une visibilité, il serait en tabarnak. Il serait pas content. Si tu penses lui faire une espèce d'hommage, là, moi, je pense qu'il serait en maudit que tu exploites son image, même pour faire la même marde que lui fait. Il serait en crise. Il te poursuivrait!
Là, on va s'en aller du côté de ce dont j'ai parlé hier. Là. On tombe en mode, là. Parce que moi, je veux exposer des choses, puis après ça, je vais avoir des questions.
On rentre dans le faux sceptique, là.
Je vous donne des exemples, là. Bon, ce compte-là, premièrement, faisons un peu de contexte, là, comme vous allez le voir, ça s'est appelé Ricardo Martinez, Pablo Martinez, Journal de Rick Martinez. Ça a eu plein de noms, puis vous allez comprendre assez facilement pourquoi, à un moment donné, ben, il s'est fait sacrer dehors d'à peu près toutes les plateformes. Québec qui recule sur la vaccination obligatoire, une image de Marois Risky, quelle pute. En réponse à Guillaume Lepage, qui était très heureux de voir Andrew Tate se faire arrêter alors qu'il était en Roumanie. Ben voyons donc, la planète est endoctrinée dans l'imbécilité. Qu'est-ce que tu connais sur Andrew Tate à part ce que les médias ont raconté? Il est haut en couleur, on peut le détester, mais souhaiter son emprisonnement basé sur rien. Alors qu'il s'est lui-même, écoute, il cherchait l'endroit où est-ce qu'il se tairait, puis ils ont trouvé ça grâce à une boîte de pizza avec Greta Thunberg. Garde là, c'est absolument magique. Tu vaux mieux que ça ou peut-être pas, encore une fois. Tu sais, moi, quelqu'un qui est du bord d'Andrew Tate, ça m'intéresse plus ou moins. Comparer Poutine à Hitler est d'une stupidité dangereuse. Les amalgames de ce genre pleuvent ces jours-ci sur Twitter, mais lui a fait la même affaire. Il y a quelqu'un qui y a remis sur le nez. Je suis d'accord que faire des amalgames avec Hitler, c'est profondément stupide. Excellente façon d'humaniser un dictateur. D'ailleurs, Hitler adorait faire cela. C'est pas correct de faire ça, mais pour François Legault, il n'y a pas de problème.
Pour Poutine,
mais
quel qui a attaqué un pays qui l'avait jamais attaqué, puis qui tue du monde, qui déporte des enfants de l'Ukraine à la Russie. Lui, tu peux pas le comparer à Hitler, mais François Legault, lui, il est proche d'Hitler. Voyons donc.
Quel manque d'intelligence. J'en doute fort. Je doute fort de ce que tu affirmes. Là. On me dit que les comptes Martinez, c'est Fillon. J'en doute très fort. On continue. Toujours en réponse, bien sûr, à son histoire d'utiliser le Hitler comme analogie. Je ne suis pas un média de masse, mais un compte satirique. Les mesures appliquées s'approchaient énormément du totalitarisme de Hitler. Les amalgames d'un compte satirique étant donc plus que normal. Tu sais, fait que c'est pas correct que les autres fassent des amalgames. Mais moi, j'ai de la satire. Moi, j'ai le doigt. Moi, là, c'est pas pareil, on sait bien. Je continue. Bon, regardez bien ça. Là. Ça, c'est plus récent. Là. C'est plus récent un petit peu. J'ai demandé à un outil d'intelligence artificielle de me générer des images de drag queen qui lit des livres aux enfants. Ish. Donc, bien évidemment, ça fait des images très pas le fun à regarder. Mais regarde bien ça. Non, mais regarde où ça s'est ramassé.
C'est devenu une nouvelle quelque part.
Sornette Trudel a partagé ça dans son show. François Maléga a pensé que c'était vrai. Caroline Lessard a pensé que c'était vrai. Fait que tu sais, quand t'es rendu qu'a publié des images de même, c'est récupéré par les conspirationnistes les plus toxiques, les plus nocifs, et que toi, tu trouves ça drôle. C'est comique, là. T'as le droit. Écoute, y a pas de loi contre ça, puis tu sais, t'as le droit de troller, y a pas de problème avec ça. Sauf que, tu sais, garde-toi une petite gêne de traiter des élus de putes, puis de défendre des maillets comme Andrew Tate, puis du monde qui ont fait du trafic de personnes, puis ainsi de suite. C'est n'importe fucking quoi.
Ça démontre à quel point ces gens-là ne vérifient rien. N'importe quelle patente qui vient conforter leur théorie devient vrai. C'est aussi simple que ça. Ils s'en foutent que ce soit vrai ou non. Ils vont même pas vérifier. Ils décident non, c'est que c'est vrai parce que ça fit dans le son narratif. Cossette Trudel, là, voilà. Il est pas si brillant que ça. Là. C'est pas parce qu'il y a un doctorat en théologie de je sais pas quoi. OK, Barvo, t'as une capacité de mémoriser, t'es capable de t'exprimer, pas pire, mais t'as aucun jugement. T'es pas quelqu'un de brillant, Alexis. T'es quelqu'un qui est facilement influençable.
Toxique.
C'est quelqu'un qui est facile à empoisonner et qui vomit ce poison-là sur autrui grâce à ton petit talent d'animateur.
Et là, ben, je vous ramène sur des cochonneries qu'il est allé dire au sujet de Catherine Fournier. Ont-ils révélé exactement la nature du viol subi par Catherine Fournier? Avait-elle bu deux verres de vin, ce qui aurait transformé son oui en non? Ou le gars l'a séquestré, battu pour la violer? Il me semble qu'il serait judicieux de préciser. Je répéterai pas ce que j'ai dit hier. Le show est encore disponible. Allez le voir, mais ça se résume à c'est pas tes calices d'affaires. Mais je continue. Là, évidemment, il y a quelqu'un, puis moi aussi, là, je l'ai challengé là-dessus. Qu'est-ce que tu fais là, épais? C'est-tu accidentel ou volontaire, ton idiotie? Une des affaires les plus épaisses que j'ai lues de ma vie. Ben voyons, Gaulis, je demande la nature de l'agression. Êtes-vous tous rendus des demeurés? Hey, écoute, il y a un demeuré dans ce thread-là, puis c'est toi. Je continue parce qu'il n'y a pas fini. Je cherche uniquement à savoir la nature du viol. Je me suis même trompé, il n'y a pas eu de viol. Tu sais, c'est-tu si important que ça pour toi et Pablo? Là?
Les détails.
Et là, ben, évidemment, c'est le positionnement en victime, comme toujours. Twitter, vous êtes parfois vraiment décevant. J'ai posé une simple question. Savoir si quelqu'un savait c'était quoi la nature du viol. Je me suis trompé, c'était une agression sexuelle. Et tout le monde capote avec des phrases qui ne veulent absolument rien dire. Un viol, c'est un viol. Non, genre vraiment pas. Il y a plein de différents niveaux de gravité. C'est pour ça qu'une personne peut avoir une sentence de 5 ans comme de 2 mois. Ça dépend de la nature du crime. Cela n'enlève en rien que c'est un trou de cul. Et j'ai pas dit le contraire. Allez relire mon tweet. Jamais je défends l'agresseur. Tu dis qu'un non se transforme en oui. Non. Je dis qu'un oui se transforme en non. Je fais référence à la nouvelle mode de consentement comme quoi si la fille a pris deux verres de vin, même si elle veut et te dit oui, c'est un viol. Image ici-bas, on parle d'image qui est à droite et c'est ça la fameuse pseudo-campagne. Jake was drunk, Josie was drunk. Jake and Josie hooked up. Donc, se sont allés un peu plus loin. Josie could not consent. Et tout ça, c'est pas de ma faute, c'est la faute de la boisson, monsieur le juge. Esti de maillet.
Quel cyclin. T'as encore blâmé les victimes, on est revenu là-dedans. Hey, regarde, je t'interromps avec un tweet de Catherine Fournier sur lequel je suis tombé. Je sais pas si je veux pas te le voler si tu étais dans ta liste, là.
Après, ben, j'ai pas eu le temps de le mettre, mais tu parles de la radio de Rimouski, là, c'est sûr.
À CFX, CFYX à Rimouski, c'est une... bon, j'ai pas besoin de dire c'est quelle compagnie, là. On dit la station de radio a tenu des propos. Moi, j'aurais aimé mieux que le nom de l'animateur sorte puis qu'on puisse blâmer la bonne personne parce qu'il y a sûrement des gens bien corrects dans cette station-là. Mais un imbécile, un dégueulasse, un détritus a dit au micro... En partant,
Frank, excuse-moi, là, c'est moi qui vais t'interrompre. Vas-y. Parce que je l'ai tweeté, cette affaire-là, c'est pas un imbécile, c'est une imbécile, c'est Monica Bourgeois à son nom.
Ah, ben merci de m'avoir informé là-dessus. Je pense qu'on devrait justement faire circuler le nom plutôt que de blâmer une station de radio complète. Mais en tout cas, à moins que tous les animateurs soient de même, mais ça m'étonnerait. Cette personne-là a dit, prendre ta douche avant de te coucher, si ça te tente pas, tu t'organises pas pour sentir bon. Ah, OK. Fait que si tu pues, ça devient un viol, mais si tu sens bon, c'est parce que tu cherchais la relation, c'est que tu voulais te faire agresser. C'est de ta faute. C'est comme porter une jupe courte le soir, là. Tu sais, c'est parce que tu cherchais le trouble. Mais là, Chris, votre honneur, elle sentait bon. Et si voulais que je fasse, j'ai sauté dessus. C'est pas de ma faute. Elle avait un capuie. C'est quoi ce style de raisonnement-là? En plus, c'est une femme qui a dit ça. Je suis encore plus dégoûté.
C'est important de spécifier que ce que t'as vu, c'est une image Instagram qui provient du compte de Catherine Fournier. Elle qui n'a pas voulu la nommer. Sauf que ce qui circule sur Twitter et que moi, j'ai retweeté, on voit le nom, okay. Et c'est Monica Bourgeois. Fait que par respect pour Catherine, elle, ça ne veut pas le dire, c'est bien correct.
Mais l'image circule mal.
Non, je n'ai pas dit que tu reprochais quoi que ce soit à qui que ce soit, mais je fais juste dire qu'elle avait fait le choix de juste dire que ça s'était passé sur les ondes de cette antenne-là. Mais quand le tweet a commencé à circuler, le nom de la personne est sorti. Mais là, ça m'amène à
j'espère que cette personne-là sera sortie des ondes, justement.
Là, ça m'amène à mon crescendo, parce que moi, ce que je veux poser comme question, puis s'il y en a qui veulent me clipper, faites-les là, parce que j'ai une question pour le Parti conservateur. Parce que la preuve est très facile à faire qu'Éric Duhaime suit ce maillet-là, que le Parti conservateur suit ce maillet-là. En tout cas, suivait une des incarnations du compte de marde de ce gars-là, parce qu'il a fallu qu'il en recrée un paquet, parce que c'est une victime de cette fête déplatformée, hein. Tu sais, il devrait avoir le droit de dire tout ce qu'il veut, puis publier tout ce qu'il veut. Sauf que, là, est-ce que lors de la prochaine campagne électorale du Parti conservateur du Québec, on va encore tweeter et faire l'éloge de cette hostie de maillet-là? Parce que ça, c'est à trois reprises là, qu'ils ont partagé des... Parce que c'est lui qui avait la fameuse plateforme, le journal de Martinez. Donc, le Parti conservateur du Québec, là, quelques mois plus tard, là, par rapport à la campagne électorale passée, est-ce qu'ils vont encore partager des affaires de ce petit clin-là ou est-ce qu'ils vont s'en dissocier? Est-ce qu'à un moment donné, là, tu sais, ça pourrait, les bottines peuvent suivre les babines? Tu sais, parce que là, ça a l'air que les woke, là, ils veulent détruire la liberté d'expression. C'est, la gauche, plutôt, veulent détruire la liberté d'expression. C'est une des affaires qu'Éric Duhaime a mentionnées. Est-ce que pour vous autres, là, les propos que cette cave-là, bien que ça soit pas illégal de ce qu'il a fait, est-ce que vous entérinez ça? Est-ce qu'on va pouvoir en déduire lors d'une prochaine élection ou dans le futur, si vous partagez sa marde, est-ce qu'on va pouvoir en déduire que vous cautionnez aussi les propos de cave qui tient? Est-ce qu'il y a un journaliste ou une journaliste des médias traditionnels qui va poser la question à Éric Duhaime? Parce que nous autres, il acceptera jamais de nous parler.
Non. Il est trop brillant pour ça.
Ben, écoute, en même temps... On n'a pas essayé. Soyons honnêtes. Là. Moi, j'ai jamais contacté l'entourage d'Éric Duhaime. Puis toi, en plus, tu le connais. Là, mais,
collaborer avec.
Mais Frank, là, tu peux pas dire, tu peux pas t'en servir un paquet de fois que tu as parlé avec à la radio, puis après ça, parler comme si tu ne connais pas partout.
Un, je m'en sers pas. Là. Puis deux,
tu fais mention.
Ça, puis, ben oui, mais j'ai été. On était collaborateurs, on s'est jamais rencontrés en personne. Il y a la station à telle heure, puis on jasait pendant 20 minutes. Après ça, il raccrochait. Là.
C'était ça notre relation. Que si tu le contactes, t'as plus de chance que moi. Hein. Tu peux s'entendre là-dessus?
Ça, peut-être. On pourrait essayer.
Bon. Fait que moi, je veux vraiment... Puis tout ce que vous venez de voir là aujourd'hui, là, ça va être l'objet de publications que je vais faire sur mes médias sociaux, parce que je veux vraiment caller out le Parti conservateur du Québec. Puis qui mettent le culotte par rapport à ça, puis qu'il y ait quelque chose. Écoute, traiter Marois Risky de pute, là, je suis convaincu qu'Éric Duhaime n'est pas en faveur de ça, puis c'est lui le chef du parti qui partage ces cochonneries-là. Tu vas me dire, oh là, Martin, tu sais, le lacique pas mal. Non, pas à tout. Parce que faites juste vous imaginer deux secondes que la CAQ ou QS ou le Parti québécois avait partagé de la marde de ce gars-là, à quel point il serait là-dessus en ce moment-là.
Ah, il se serait dissocié à une vitesse là, phénoménale, mais je pense que Éric Duhaime voit un certain profit là-dedans. Le profil électoral.
À quel point le Parti conservateur du Québec aurait sorti ça? Il l'aurait sorti du croche, c'est sûr, puis ça aurait été son équipe de Pee-Wee qui se serait occupé de ça, mais on est d'accord pareil. Qu'il serait là-dessus comme la misère sur le pauvre monde. Regardez ce que la CAQ entérine. Regardez ce qu'il cautionne. Regardez les affaires que je te dis. C'est certain qu'il dirait ça.
Mais n'importe quel politicien ou parti politique respectable se serait dissocié au plus crise de cette bouette-là. Mais c'est ça. J'ai bien dit respectable.
Voilà. Fait que c'était mes tweets de cette semaine. Puis n'hésitez pas, hein, si vous voyez ça. Moi, ça va assurément être sur la page Facebook Martin Godette, page pro, et sur le compte Twitter A commercial GAUMART. C'est rare que je fais ça. OK? Je suis pas un gros fan, moi, de partager. Je me sens comme Carl Giroux quand je fais ça. sauf que pour vrai, par exemple, ça, là, si vous pouvez le partager, là. Ça, c'est un vrai call to action que je vous demande parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Puis le timeline, là, il n'est pas important. C'est pas grave que tu sais, là, il n'y aura pas de syndrome de Popol qui va s'appliquer dans ça, là. Moi, j'accepterai pas comme réponse. Ah, oh, ben oui, mais là, c'est la campagne électorale, là. On savait pas que dans 6 mois, il était pour dire des niaiseries. Non, 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 tu me diras pas ça. Tu vas me confirmer que tu te dissocies de près ou de loin à ce sans-dessin-là qui se cache toujours et qui se drape de l'édredon de c'est des jokes pis c'est de la satire, là. Fuck you. Traiter de une élue démocratiquement de pute parce qu'elle est en faveur du retrait des mesures sanitaires. Ça, là, t'as le droit de le faire, mais moi, j'accepte pas, même si c'est pas un parti que je supporte, j'accepterai pas qu'un parti politique dissémine la marde de cette personne-là. Je veux rien savoir. Voilà.
Je suis en train de faire des refreshs sur la pétition.
Je m'en allais là, mais on gagne là.
Ah, oh, oui, ben oui, 43 555 signatures, 56 d'accumulés contre
en faveur de l'heure du compte du drague.
Combien Éric est rendu? T'as-tu sa pétition à lui, pas loin?
J'ai toujours ça, pas loin.
Comment à combien est rendu, incluant les faux noms, là, incluant ceux qui ont signé deux, trois fois avec des faux profils. J'ai hâte de voir c'est quoi son chiffre. Là, mais,
ouais, ça va sûrement prendre deux, trois secondes.
Oui. En attendant, je vais rappeler que le but de sa pétition, comme il le disait lui-même, c'est de faire pression sur les élus pour qu'ils se penchent sur ce problème-là. Ben, Colin, ta pression est rendue en une tension. Là, il y a du slack dans la corde. Il n'y a plus de pression. Là. La pression est complètement annihilée par l'autre pétition concurrente qui te clenche. Combien il est rendu?
38 000. Sont à 38 084 signatures, puis l'autre, je ne l'ai pas ouvert, mais là, c'est toi qui l'as.
43 565, ça a monté de 11 depuis tantôt, là, de 10 depuis tantôt.
Voilà, il y en a 5 000 de plus à peu près. Fait que tu sais, encore, écoute, même une pétition qu'on lit, t'es pas capable de gagner ça.
Ouais. Ben, écoute, moi, j'ai toujours dit que les pétitions, ça donnait jamais rien, mais celle pour l'heure du compte du drague, elle donne de quoi en maudit, là. Elle vient de détruire. Tu sais, Éric Duhaime qui essaie de se présenter comme le porte-parole, la voix de ceux qui n'ont pas de voix. Hey, Colin, ça fait beaucoup de femmes tailleules. Ça fait 43 565 femmes tailleules sur tes voix, pas
mais,
de voix.
Mais, souvenez-vous, une des forces d'Éric Duhaime, ça, faut y donner. Il va trouver le moyen de faire tourner ça à son avantage. Il va se défendre, en disant, pas se défendre, mais il va justifier toute cette initiative-là en prétendant que c'est lui qui aura initié le très important débat de la nécessité de protéger nos enfants des drag queens. Alors que le débat, c'est pas ça pantoute. Moi, là, je vais vous le dire une fois pour toutes, j'ai trouvé le verbiage pour le dire hier dans le Mercronspi. D'ailleurs, merci à Tommy de m'avoir reçu. Là, ça devrait être disponible pour les Deep Seekers bientôt. Moi, je vais défendre le droit des bibliothèques de booker des drag queens pour la lecture du conte. Et je vais défendre le droit des parents de ne pas vouloir que ça se produise à la maternelle ou à l'école. Parce que je considère que c'est pas le même débat pour moi. Ça veut pas dire que je suis pas en faveur. Ça veut dire que je comprends qu'un parent pourrait dire... À l'école, ça m'intéresse moins ou je suis pas d'accord ou je veux pas. Mais dans une bibliothèque, c'est « amène pas ton enfant là, that's it ». Tandis qu'à l'école, je comprends que tu es un petit peu plus limité. Pis tout. Ça veut pas dire que je supporte le droit des parents d'accepter ou non qu'ils disent « bon, on va parler de Martin Luther King avant de parler de John F. Kennedy ». Non, ça, c'est pas de vos crises d'affaires. Là. Mais je suis d'accord que ça nécessite un petit peu plus de sensibilité relativement peut-être aux drag queens parce que il se passe des affaires actuellement. Mais si tu m'avais posé la question, Frank, en 2016, j'aurais dit « ferme ta gueule ». Tu comprends? Mais là, aujourd'hui, je comprends que c'est un dossier qui est chaud, qui appelle aux émotions, qui est polarisant. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'un parent il a le droit de décider s'il y a des choses qu'il veut pas. Mais il a pas le droit de décider de tout ce qui est présenté à son enfant, par exemple. Parce que là, sinon, écoute, c'est n'importe quoi. Là. Mais ouais, dans ce cas-là, je comprends plus... Dans le contexte scolaire, je vais comprendre un peu plus les parents. Ça veut pas dire que je suis contre les drag queens, parce qu'en toutes circonstances, je pense qu'il aurait le droit de lire, il devrait avoir le droit de lire des contes partout. Sauf qu'un parent a le droit de dire qu'il veut pas. Pour son enfant à lui. C'est la nuance que j'apporte.
Moi, mon opinion est la suivante, là. Je choisis de faire confiance aux professionnels de l'éducation aux enfants. Je choisis de faire confiance aux professionnels de l'éducation sexuelle. On a reçu, la semaine passée ou l'autre avant, une psychologue sexologue. Moi, je pense que j'ai pas les outils qu'il faut pour juger de ça. Fait que je décide de me fier à des gens compétents et de défendre leur expertise, je vais dire comme ça. Parce que j'ai pas d'enfants. Je connais rien à l'éducation. Fait que, tu sais, c'est la même situation que dans le cas de la pandémie. Je me fie à ceux qui ont étudié là-dedans, qui ont consacré leur vie à cette science-là. Puis, les commentateurs qui décident ou non, qui donnent des avis médicaux, puis des avis psychologiques, puis des... Je m'en calisse.
Ben, moi, essentiellement, là, je dis la même affaire que toi. C'est pas une question de leur faire confiance ou pas. Je fais confiance aux éducateurs sexuels et pédagogiques des écoles puis du système scolaire. C'est pas ça. Mm-hmm. C'est que il y a ça, puis il y a aussi le fait que je comprends qu'un parent veuille traiter de ça lui-même avec son enfant. C'est rien que ça, mais je suis pas d'accord. Mais je comprends, mais je suis pas d'accord. Je pense que ça devrait avoir lieu partout. Sauf qu'il y a un moment donné aussi que je peux comprendre un parent qui déciderait que lui, il veut traiter ça différemment que pas savoir quand est-ce que ça va avoir lieu à l'école. C'est tout. C'est rien que ça, je dis.
Primauté parentale!
Mais je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Là. Je précise parce que je veux pas que ça sonne comme si on avait des opinions qui étaient disparates. C'est plus façon de le dire. Là.
Mais tu sais, je pense que les parents ont le droit et le devoir de s'impliquer dans l'éducation de leur enfant, de s'y intéresser. Et leur opinion doit être considérée. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des cas où il faut protéger les enfants contre leurs parents. Fait que la primauté parentale, ça devrait pas être un droit acquis et inaliénable parce que des fois, on est obligé, pour protéger l'enfant, de retirer ce contrôle-là aux parents. Puis je pense entre autres à des écoles religieuses clandestines qui fait apprendre la Bible, la Torah ou le Coran à des enfants, tout en ne leur enseignant pas les mathématiques ou la vie, comment ça fonctionne dans le vrai monde, tu sais, pour les garder dans une espèce de petit milieu fermé, là, tu sais. Fait que, tu sais, oui, il faut que les parents aient leur mot à dire, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui vérifie si ce mot-là est pour le bien-être de l'enfant.
Bon, oh oui, puis tu sais, je pense que c'est pour peut-être clair, là, je pense que c'est très indicatif aussi d'un autre problème ou d'une autre problématique lorsque les parents, justement, veulent pas que certains sujets soient traités à l'école. T'sais, c'est symptomatique d'autre chose qui n'est pas que causée par les drag queens.
Non, c'est
causé par un paquet d'autres affaires, dont la désinformation. Puis ça, ben, si vous êtes tanné d'entendre parler de désinformation, c'est bien plate ce que je vais dire là, mais l'Express, c'est peut-être pas pour vous autres. Parce qu'on va parler de l'actualité, mais quand il va... C'est une corde sensible qui est là depuis le début du crachoir. Puis c'est clair que ça va continuer d'en faire partie. Fait que, voilà.
On fait de l'information sous une forme plus ludique et moins rigoureuse, certainement, que des Radio-Canada de ce monde. Ça, on va l'admettre, évidemment. En se consacrant à l'information, ben on va combattre la désinformation, c'est certain. La désinformation est notre ennemi. Puis je pense que tout communicateur a ce devoir-là. Moi, c'est dans cet esprit-là que j'ai fait mes études puis que j'ai exercé mon métier. Puis c'est comme ça que je vais continuer de le faire. Puis je pense que Martin, t'es pas mal avec moi là-dessus.
Ouais, mais j'ai pas étudié là-dedans, par exemple. Fait que j'ai ouais, moins
regarde,
de droit.
Tu fais aussi bien que moi, même.
Fait que, je te niaise.
Hey, on va se quitter, puis on va vous donner rendez-vous dimanche pour le crachoir dominical et évidemment, l'after show, pas oublier l'after show. C'est c'est pas juste un show, c'est un événement. Faut être là. C'est surtout ce qui, tout après le crachoir qui est présenté à 19h30. Et, à partir de lundi, on commence les express à partir de midi pour s'informer et combattre la désinformation, comme des preux chevaliers de la vérité. On va lancer des alertes. OK, je commence à se déconspirer. C'est le temps qu'on s'en aille. Salut tout le monde. Bonne fin de semaine.
Membre de la famille H2O Web Media.